Le figurant, un film de Edward Sedgwick, raconté par René Bizet. Non, je vous en prie, ne me parlez pas des malheurs qu'engendre la timidité. Ce sont des fables pour petits garçons convalescents. J'ai toujours aimé le théâtre. Quand j'étais jeune, je ne le quittais guère, ou plutôt je ne quittais guère les coulisses, car je n'avais pas les moyens d'aller dans la salle. Qui d'entre nous n'a pas sur la conscience deux ou trois figurations sur les scènes à grand spectacle ? À l'époque dont je vous parle et qui n'est pas encore lointaine, je figurais régulièrement au New Theater de New York, dans une revue qui portait ce titre « Carolina ». Vous n'ignorez pas qu'aimer le théâtre, c'est généralement aimer une actrice. C'était mon cas. Si je mettais la plus attentive application à manœuvrer, au premier acte, sous l'aspect d'un soldat nordiste, si je donnais toute satisfaction à mon chef et au régisseur, c'est que je considérais Trilby Drew comme la plus jolie fille qui fut sur les deux continents. Et je n'étais pas le seul de cet avis, comme le prouvera la suite de cette histoire. Trilby Drew, non, n'attendez pas de moi un portrait. Si vous l'avez connu, tâchez d'appeler vos souvenirs à l'aide et vous me comprendrez. Donc, pendant tout le temps qu'on joua Carolina et que Trilby Drew en fut l'héroïne et la vedette, vous eussiez pu me deviner sous l'habit militaire dépensant des trésors de gravité et d'ardeur à défiler au fond de la scène, à croiser la baïonnette et à escorter le prisonnier que nous devions emmener vers le mur d'exécution, je veux dire derrière la toile. Le premier tableau en effet racontait l'aventure d'un sudiste poursuivi que Trilby Drew accueillait dans sa demeure. Nous, les nordistes, nous survenions. Le chef de notre détachement se saisissait du malheureux et déclarait froidement à Trilby que si elle ne lui accordait pas ses faveurs, le fugitif serait fusillé. Or, vous pensez bien que Trilby était une âme d'élite, que ce honteux marché la révoltait, qu'elle se trouvait mal, qu'elle tombait dans les bras d'un soldat nordiste en gémissant de douleur, et que l'heureux garçon profitait et de la solitude et de la faiblesse de la femme pour embrasser cette dernière. Sur ce baiser farouche, le rideau glissait et l'on passait à un autre tableau. Je n'avais qu'un rêve, être admis à faire le soldat qui recevait Trilby défaillante dans ses bras pour pouvoir lui dire mon amour dans l'étreinte finale. Mais hélas, chacun des figurants avait cette prétention, et celui qui avait l'honneur et la joie du baiser n'était point disposé à nous laisser sa place. Or, un soir, ce gaillard, trop heureux, fut appelé d'urgence à la police. Je m'étais toujours douté que c'était un vilain bonhomme, mais je croyais que mes préventions venaient surtout de ma jalousie. Erreur, c'était bien un bandit, et il le fut jusqu'au bout. Par je ne sais quelle malice, il remit son fusil, son képi et son uniforme à un inconnu que j'ai su depuis être un misérable apprenti tailleur du nom d'Elmer, qui était bien le plus parfait représentant de la corporation des imbéciles de New York. Comment notre chef de figuration ne vit-il pas sur le visage de ce pauvre garçon la bêtise et l'incompétence ? C'est un mystère. Toujours est-il que dès le lever du rideau, cet idiot fit des siennes. Au lieu de partir avec nous, quand le moment d'entrer en scène fut venu, il s'en fut tout seul, comme s'il était plus pressé que tout le monde. Le voilà, comme un piquet, devant la toile de fond. Personne ne l'attendait, surtout pas les spectateurs qui éclatèrent de rire. Trilby Drew lui jeta un regard de tigresse affamée. Son partenaire lui fit une grimace dont il eut dû trembler. Mais il n'y a que les timides pour ignorer les limites de l'audace. Le misérable exécuta une cascade de gaffes, comme je n'en ai jamais contemplé de ma vie, un Niagara de sottises, depuis des chutes successives et tumultueuses quand le silence était de rigueur, jusqu'à des coups de crosse de fusil sur la tête du chef et des coups de pied dans un arbre en carton qui était là pour figurer le plus robuste chêne de Carolina. Le régisseur de la coulisse s'écumait. Il avait beau multiplier les « Psst, psst, ne bougez pas !» ou les « Venez ici tout de suite !» menacer le fou furieux de toutes les peines éternelles, essayer des plus doux appels, des sourires les plus hypocrites pour le ramener vers lui, et un sentiment plus précis de ses devoirs de figurant, rien à faire. Et ce qui mettait le comble à la fureur de tous, c'est que la salle était plongée dans une hilarité inextinguible. Trilby Drew aurait pu mourir de congestion devant les yeux du public que cet affreux spectacle n'eût point calmé cette gaieté délirante. « Tirez dessus !» hurlait le régisseur en désignant Elmer. « Tirez dessus pour de bon, tuez-le, on croira que c'est dans la pièce !» Je l'eusse fait volontiers, mais nous n'avions pas de cartouches. Et ce fut ce pitre en folie, cet assassin de l'art dramatique, cet Elmer du diable, qui reçut Trilby dans ses bras. Je ne me tenais plus. J'avais envie de me jeter sur lui, de l'étrangler. Je n'en eus ni le temps ni la peine. Ce grotesque avait crevé de sa baïonnette qu'il tenait comme une broche à poulet le sac de sable qui faisait le contrepoids du rideau. Et au moment où il approchait son hideux visage de l'admirable figure de la vedette, le rideau tomba d'un coup sec et fit s'écrouler l'un sur l'autre ce figurant de malheur et Trilby Drew, dont les spectateurs virent les jambes en l'air. Or, savez-vous ce que j'ai appris peu de temps après? Tout simplement qu'Elmer avait épousé Trilby Drew. Oui, ce fantoche, ce niais, qui avait la chance inespérée de donner le baiser final à la vedette dans une chute si ridicule que la pièce elle-même n'y avait pas résisté, qui avait couvert de honte le New Theater, ses artistes, son personnel, sa figuration dont j'étais, et une grande actrice comme Drew. Ce guignol aimait notre héroïne en secret, était trop timide pour le lui dire, avait employé le truc, notre truc de figurant, et avait réussi à passer devant le pasteur avec celle qui avait dédaigné notre modeste mais utile besogne, notre précieuse collaboration, des mois d'efforts et de noble travail. C'était à vous dégoûter de bien faire. Mes enfants ne tiraient pas une morale trop hâtive de cette aventure. Le bien est le bien. Il a toujours sa récompense. Du moins, je le crois, bien que ce ne soit pas moi qui ai jamais pu contrôler cette affirmation. Trilby Drew devint donc Madame Elmer, mais par dépit. Elle n'avait consenti à le prendre pour époux que pour se venger de celui qu'elle aimait. Non, ce n'était pas votre serviteur. Un acteur de la troupe qui, lui, avait épousé une jeune fille de bonne famille et riche, par hasard. Évidemment, dans ces conditions, j'aurais pu prétendre à la main de la vedette. Le mérite d'Elmer s'en trouva très réduit. Mais il était le mari, n'est-ce pas? Et ce nigaud timide voulut, paraît-il, le lui faire voir. Alors, à ce moment, c'est-à-dire la nuit même de son mariage, avec cette logique féminine que nous ne nous laissons pas plus de subir que d'admirer, elle le planta là. Elle se mit à songer qu'elle abandonnait la gloire et la fortune pour un petit apprenti tailleur, ce à quoi elle aurait pu penser plus tôt, sans doute. Mais quand on se marie, on a déjà tant de pensées en tête, et comme elle avait revu son bel acteur, elle se précipita vers lui, sans se soucier de la jeune fille de bonne famille et riche par hasard, que le bel âtre avait épousé de son côté. Bref, mon Elmer en fut quitte pour un jour de mariage et une nuit de noces sans noces. Vous me direz qu'en bonne justice, tout devrait se terminer à cet abandon, bien sûr. Mais l'amour et la justice ne font pas meilleur ménage qu'Elmer et Trilby. Du moins aux premières heures de leur union. Car je me suis laissé raconter que depuis, ce diable d'Elmer avait su reconquérir sa femme, en se conduisant comme un héros à bord d'un bateau que des bootleggers avaient saisi. Il a trouvé le moyen de faire arrêter tout l'équipage et de sauver Trilby des mains de ses malfaiteurs. Ils sont donc de nouveau mariés, et on m'assure qu'ils auront beaucoup d'enfants. Seulement, je vous en prie, si vous voulez me voir un œil gai, un esprit un peu prompt, ne me parlez jamais des timides et des catastrophes de la timidité. Je vous répondrai Elmer et Trilby Drew. Si j'en ai la force. C'était Le Figurant, un film de Edward Sedgwick, raconté par René Bizet.